بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم Oh vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. Vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Ikhwan fillah, nous voyons le troisième verset ce soir dans l'introduction du Bab al-Taqwa, troisième et dernier verset, concernant la crainte d'Allah parmi les versets qui ont été retenus pour introduire les ahadith concernant la piété. On avait vu au tout début, « Ya yuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqati » ou plutôt « Fattaqullaha » oui, « Fattaqullaha mastata'atum » dans le premier dars. On avait vu la semaine dernière, « Waman yattaqillaha yaja'allahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib » que celui qui a la crainte d'Allah, Allah lui accorde son aide et Allah lui accorde l'ouverture, la facilité, la subsistance d'une façon qu'il ne s'imagine même pas, d'une façon qui va parfois à l'encontre de la logique, qui va parfois à l'encontre de ce que les êtres humains ont eu l'habitude de concevoir, de comprendre comme système, comme logique, comme résultat des efforts. Celui qui a la crainte d'Allah, il peut voir l'aide d'Allah Azza wa Jal avec ou sans intermédiaire. Le prophète alayhi salatu wa salam avait certainement, c'était l'homme qui avait le plus de crainte d'Allah dans l'histoire de l'humanité. Le prophète avait dit aux sahaba une fois, « Ana atqakum lillah, je suis le plus pieux parmi vous. » Le prophète a obtenu l'aide d'Allah Azza wa Jal avec des intermédiaires, mais également sans intermédiaires. On expliquait aux enfants, aux élèves de la madrasa, quand les musulmans étaient en lutte contre la tribu de, subhanallah, Hawazin. Vous ne manquez plus que c'est moi qui ne connais pas ma leçon. La tribu de Hawazin, ennemi juré des musulmans. Il déclare la guerre aux croyants. Vous croyez que c'est à chaque fois les musulmans qui prennent l'épée qui... Non. Les Hawazin, ils ne sont pas contents parce que Makkah est devenue musulmane. Les mu'minis, les croyants, ont repris Makkah, ils ont enlevé les idoles, ils ont pardonné les fauteurs de troubles, les ennemis historiques de dizaines et de dizaines d'années, et que, subhanallah, la péninsule arabe est en train d'accepter le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Les Hawazin, ils ne sont vraiment pas contents. Parce que les Hawazin, c'est un peuple très puissant. Ils ont une armée, ils sont riches, ils sont forts, ils sont aussi nombreux que les Quraysh de Mecca. On pourrait dire que c'était les concurrents directs, on peut dire comme ça, hein, mais pas vraiment concurrents, mais en termes de adad et de udda, en termes de nombre d'habitants, de combattants, de richesses, c'était l'équivalent de Mecca. Donc ils voient que les Quraysh, toute la ville de Mecca est sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le contrôle des Ahlul Tawhid, Ahlul Iman. Maintenant, ils craignent que bientôt leur village et tous les Hawazin également vont être à la merci des croyants. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'unir avec les Mushrikin de quel village? De Taif. Taif qui est à peu près à combien de kilomètres de Mecca? Une centaine de kilomètres de Mecca. Un peu comme ici Saint-Denis-Saint-Pierre. Sauf que c'est plus comme Saint-Louis-Sillaos. D'accord? C'est vraiment dans les hauteurs. Donc, ils vont voir les gens de Taif qui s'appellent les Banu Thaqif. Les Banu Thaqif, c'était les personnes qui avaient chassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était les personnes qui avaient insulté le prophète alayhi salatu wa sallam. C'était les personnes qui avaient humilié le prophète alayhi salatu wa sallam lorsqu'il était venu prêcher la vérité. Mais humilié à leurs yeux, à eux, mais aux yeux d'Allah, notre prophète alayhi salatu wa sallam, sans le moindre doute, il en est ressorti grandi avec encore plus de lumière et il a prouvé au monde qu'il avait encore plus de rahma
dans son cœur que personne ne pouvait imaginer lorsque l'ange des montagnes a proposé est-ce que on écrase les Banu Thaqif parce qu'ils t'ont insulté, ils t'ont frappé, ils ont fait couler ton sang, Moubarak, alors que tu es venu juste leur expliquer qu'il y a un seul Dieu, il faut l'adorer. Le prophète alayhi salatu wa salam a fait doua qu'Allah azza wa jal accorde la guidée à leurs descendants. On est maintenant après la conquête de Mecca, ces Banu Thaqif sont toujours les ennemis déclarés de l'islam. Et ils vivent enfermés sur eux, dans la montagne de Taïf. Et donc les Hawazin vont voir les Banu Thaqif, ils vont faire un pacte entre eux pour attaquer les musulmans. Et là le prophète alayhi salatu wa salam, il reçoit la nouvelle que Hawazin et Thaqif, Banu Thaqif, ils se sont alliés, alors qu'ils n'ont aucune raison de s'allier en temps normal, ils se sont alliés pour lutter contre les croyants. Il va réunir les musulmans, il va dire « Oh musulmans, il faut défendre Mecca, il faut défendre Medina, il faut défendre Mecca qu'on vient de récupérer. » Et donc il y aura une lutte, et lors de cette lutte, les musulmans connaissent beaucoup de difficultés. Parce que la lutte a lieu sur un territoire qui n'est pas connu des croyants. C'est dans un endroit qui s'appelle Vallée de Hunayn, une région montagneuse avec des grottes, avec des collines, un endroit que les Ahl-e Mecca ni les Ahl-e Medina, ils ne connaissent pas. Donc ils vont se faire surprendre par les ennemis, qui vont se cacher dans les grottes, dans différents endroits, à la connaissance du terrain, ça c'est essentiel. Et l'autre difficulté, on sort du sujet, mais on reste dans la confiance en Allah, la crainte d'Allah. L'autre difficulté de cette lutte contre les Hawazin, c'est que dans l'armée des musulmans, il y avait des personnes qui venaient de se reconvertir à l'islam. Il y avait des personnes qui n'ont pas connu le tarbiyya nabawiyya, l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas connu les moments de difficulté où on apprend à placer sa confiance uniquement en Allah. Ils voient qu'ils sont à, je ne vais pas dire de bêtises, ils sont, je crois qu'ils étaient à peu près à 20 000 les croyants, ou 12 000, à vérifier le chiffre. Ils étaient très nombreux. Rare qu'il y ait une bataille où il y avait autant de croyants. Donc certains étaient fiers de leur nombre, de leur préparation. C'était là un manquement de leur confiance en Allah. Et donc par rapport à ça, il y a eu des difficultés, il y a eu un début de défaite. Il y a eu un début de défaite de la part des musulmans. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam a demandé à Allah azza wa jal d'envoyer son aide. Il a rappelé ses sahaba. Et là, le texte de la sirah est magnifique. Les muhajirin, les ansar, les ahlul bayt, les proches du prophète alayhi salatu wa salam sont revenus auprès du prophète alayhi salatu wa salam, fait un bloc auprès de lui, même si ces personnes qui sont revenues, ça ne représente rien par rapport à l'armée, le nombre de croyants qu'il y avait au début. Mais ces gens-là, ils ont la crainte d'Allah, ils ont l'amour d'Allah, ils ont confiance en Allah, et Allah a envoyé l'aide invisible. C'est quoi l'aide invisible? Les malaïka sont venus du ciel pour aider al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui avait demandé à Allah son aide dans cette situation délicate où les croyants commençaient à connaître la défaite. Les croyants disent, voyons, les savants, les ulama, les muhaddithins, les muarrikhins, les ulama de la salat disent, voilà comment le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam obtenait l'aide d'Allah avec ou sans l'intermédiaire. Par des moyens qu'on voyait, mais également par des moyens qu'on ne voyait pas. Lorsque le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam retourne de Taïf, justement, lorsque le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam est éprouvé, il reçoit, pas la visite, mais il va rendre visite aux tribus arabes lors du Hajj à Mina. Allah Azza wa Jal met sur son chemin les Ahli Yathrib, les gens de Médine. Et ces personnes-là vont apporter iman sur le prophète alayhi salatu wassalam, ils vont accepter un Dieu unique, ils vont propager l'islam dans la ville qui s'appelait Yathrib et qui ensuite s'est appelée Al-Madina. Et là, ça va devenir un endroit où les croyants vont trouver la paix, la tranquillité, la sérénité, la possibilité de pratiquer leur religion, de prier librement, chose qu'ils n'ont jamais connue avant. Là, l'aide d'Allah est venue par des intermédiaires visibles, par des hommes. Pour Hunayn, lorsque les croyants ont été attaqués lâchement, l'aide d'Allah est venue par le ghaib, l'invisible. Donc, « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْهُ مَخْرَجًا » Les savants disent dans toutes les situations de notre vie. Ce n'est pas uniquement les situations spirituelles, même dans le travail pour obtenir notre subsistance, pour avoir la baraka, la bénédiction dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on va essayer d'avoir et de gagner, on place sa confiance en Allah, on fait preuve de piété. Et quand on dit piété, c'est essayer de faire tout ce qu'on peut pour ne jamais se mettre dans une situation où Allah serait mécontent de nous. Quelle que soit la situation, sans jamais minimiser la situation. Sans jamais se dire que ça, c'est pas grave. Sans jamais se dire que ça, c'est un petit péché. Sans jamais se dire qu'il y en a qui font pire que moi. Sans jamais se dire que là-dessus, il y a divergence d'opinion des savants. Voilà aucun de ces udhr qui sont souvent l'insufflation de Shaytan. Quand il s'agit de contrôler son regard, une personne va se dire que c'est pas grave. Moi, je ne fais pas le zina. Je connais des gens qui font l'adultère, le vrai. Moi, je regarde, c'est pas grave. À ton niveau, c'est grave. Quelle que soit la nature ou la gravité du péché, cela va mettre en péril ta taqwa. Parce que la taqwa, c'est quelque chose qui doit être parfaite. La taqwa, c'est une recherche de la perfection de notre relation avec Allah. Jamais, essayez de ne jamais accomplir un péché. Maintenant, vous allez dire que jamais accomplir un péché, parfait, ce sont des termes qui n'appartiennent pas aux insan, aux êtres humains, certes. Mais faire le maximum. Faire le maximum parce que nous restons des pécheurs. Nous, parce que nous sommes des êtres humains. Comme on dit à chaque fois, je m'appelle Ibrahim, il s'appelle Isa, il s'appelle Ridwan, Riyad. On ne s'appelle pas Jibril, Mikaël, Israël, Israfil, Ridwan et Malik. Autrement, on ne serait pas là. Autrement, on serait aux cieux et on serait vraiment bien. Mais khair, nous sommes des êtres humains et on a des moments de force spirituelle, on a des moments où on flanchit, où on a des faiblesses de iman. C'est tout à fait normal. Mais là, la taqwa, elle peut rester. Parce que le prophète me dit que le meilleur parmi les pécheurs, ce sont at-tawwabun. Et ceux qui demandent pardon. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit « Wallazina idha fa'alu fahishatan » ceux qui ont traduction approximative, ceux qui ont accompli des péchés, « Al-dhalamu anfusahum » ou qui se sont fait du tort à eux-mêmes, « Dhakarullah » ils pensent à Allah tout de suite. « Fastaghfaru li dhunubihim » et ils demandent pardon pour leurs péchés. Ça, c'est les pieux. Les pieux, ce sont ceux qui ne commettent pas de péché. Mais ce sont ceux qui, également, s'il y a eu un moment de faiblesse, par inadvertance, tout de suite, ils demandent pardon à Allah Azza wa Jal. Ils ne laissent pas le point noir s'incruster sur le cœur. Parce que ça fait partie de la manifestation de la rahmat d'Allah, de la clémence d'Allah. Allah a ordonné aux anges, quand un croyant a l'intention d'accomplir une bonne action, inscrivez tout de suite la bonne action dans son livret d'action, même s'il n'a pas encore, il ne l'a pas encore accompli. Par exemple, Nabil fait le niya, demain, Inch'Allah, je me réveille à 4h30. Je vais faire 4 rak'at de Qiyamul Layl, mon witr, et je vais demander doua jusqu'à la fin du Subh al-Sadiq. On a Yamul Bidh là, non? Les joies blanches, c'est en ce moment. Donc, il fait le niya de jeûner aussi. Et il fait l'intention, il est 20h30. Le saum et le tahajjud de Qiyamul Layl sont à cet instant déjà inscrits dans son livret de compte. Et si le croyant accomplit la bonne action, Allah donne au malaïka d'inscrire au minimum 10 fois et ça peut aller à beaucoup plus en fonction de la sincérité, des efforts, du sacrifice. Ça c'est la karam d'Allah, la rahmat d'Allah. Et dans la manifestation de la clémence de notre Seigneur, si quelqu'un a l'intention de faire un péché, tant que la personne n'accomplit pas le péché bien sûr n'est pas inscrit dans son livret d'action. Et s'il l'accomplit, les anges reçoivent l'ordre d'attendre, de ne pas écrire. Alors que pour la bonne action, tu fais l'intention, c'est écrit. Tu l'accomplis, c'est minimum 10 fois plus que ce que tu as fait, c'est écrit. J'ai donné 10 euros pour la masjid, les malaïkas reçoivent l'ordre d'inscrire combien? 100 euros, minimum. Et Allah, et en plus quand ça concerne la sadaqa, c'est plus le même hisab, c'est un autre niveau. C'est pas la même façon de compter, Allah peut donner, subhanallah, encore plus une façon, plus de 700, on peut pas imaginer comment on peut gagner. Mais pour le péché, les anges reçoivent l'ordre de ne pas écrire tout de suite, d'attendre. D'attendre peut-être que ce serviteur demandera pardon à Allah Azza wa Jal. Et s'il demande pardon, le péché n'est pas inscrit. Mais s'il reste dans l'insouciance, il continue, il persiste, et qu'il ne pense même pas à son péché, là, le péché est réellement inscrit. Et le péché peut être lavé par certaines bonnes actions. Le péché peut être lavé par le tawbatun nasuha, en demandant pardon à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous donne toutes les possibilités, toutes les facilités pour obtenir sa grâce. Le nombre de fois qu'Allah nous ouvre les portes de sa rahma, subhanallah, celui qui ne peut pas Celui qui n'obtient pas la clémence d'Allah, c'est une personne qui se referme lui-même la porte de la clémence d'Allah. Tellement Allah est généreux, tellement Allah aime cette communauté, il nous donne l'occasion de retourner vers lui. Dans le verset donc qu'on a lu, comme l'a dit, troisième verset d'introduction concernant le grand chapitre, c'est bi-idhnillah, Allah nous accepte, c'est un chapitre très important de Riyad al-Salihin, Bab al-Taqwa, qui est assez long. Le troisième verset qu'on a lu donc, c'est « Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah », les versets commencent toujours comme ça. « Ya yuhalladina amanu taqullaha » Mais là c'était « Ya yuhalladina amanu in tattaqullaha » Si vous avez la crainte d'Allah, on dit directement en français, « Et il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. » On appelle ça en arabe « furqana ». Vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Voilà trois bienfaits qu'Allah accorde à celui qui éprouve la crainte d'Allah. Alors, on vient expliquer c'est quoi la crainte d'Allah. C'est ne pas accomplir le péché et c'est faire le maximum de bonnes actions. C'est une pensée permanente d'Allah. Essayer de penser, de réaliser qu'Allah nous voit, qu'Allah nous entend et qu'Allah Azza wa Jal observe chaque geste, chaque parole, chaque mouvement de notre cœur. Quelle est notre intention? Allah Azza wa Jal est conscient de tout. Donc, on fait en sorte de ne jamais se mettre dans une situation de ma'asiya, une situation de désobéissance. Tel était le niveau de iman des sahaba, parce que quand ils priaient, ils pensaient à Allah, contrôlaient leurs regards, contrôlaient les oreilles, contrôlaient leurs gestes, leurs mouvements, contrôlaient leur cœur. Tout était soumis à Allah. Une islam, une soumission totale à Allah Azza wa Jal. Et quand ils étaient en dehors de la prière, ils avaient le même état d'esprit. C'était la représentation de la piété, du ihsan, le plus haut degré de iman, et c'est ce qui est demandé à chaque croyant, à chaque époque. Donc, premièrement, on va passer en revue les trois fawaïd. Première faïda, première récompense, première faculté qu'Allah nous accorde, quand on fait preuve de piété, Allah nous donne la faculté de discerner entre le bien et le mal. Dans les commentaires, les muhadithin disent « Ayy, yaj'al lakum » ما تفرقون به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع. Allah te donne la possibilité de discerner, de savoir ce qui te sera profitable de ce qui te sera nuisible. C'est-à-dire dans chaque situation de ta vie où tu as un choix à faire. Tout à l'heure, c'est makhraja, la facilité dans n'importe quel moment de difficulté. Quand tu as besoin de quelque chose, Allah t'envoie son aide. Mais là, furqana, c'est dans les situations où tu as besoin de réfléchir. Tu as besoin de prendre une décision. Allah te donne la clairvoyance. Allah guide tes pas. Vous vous rappelez de la hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, Ya ghulam, pense à Allah, crains Allah, Allah va te guider. C'est-à-dire Allah va guider tes pas. Et quand Allah guide les pas d'un croyant, Allah le protège des situations de dhalala, de perdition. Des situations où il va tomber dans les waswasa, des insufflations de shaitan, où il sera de le rafla, de l'insouciance, où il va s'éloigner de lui. Là on a furqana, te donne la clairvoyance, l'homme ne sera pas atteint par les insufflations du diable, il ne sombrera pas de l'insouciance et il ne va pas chuter par jahl, par ignorance. Les savants disent, voilà donc les grands mots, M-A-U-X, de la Ummah, l'ignorance. Suivre ses passions, ses instincts, suivre la voie du diable, de Shaytan, et sombrer dans le fitna. Et on pourrait rajouter avec ça, le rafla, l'insouciance. Oublier la notion de temps. Oublier le but pour lequel on a été envoyé sur terre. Oublier qu'on a des anges qui inscrivent des actions. Oublier qu'il y a une mort qui arrive un jour. Quel rafla! On voit des gens mourir autour de nous. On lit, on entend, on peut-être on assiste même à des salat janaza. Combien on en a? On a assisté, on a prié sur eux et on retourne chez nous comme si de rien n'était. Ça, c'est rafla. Ça, c'est les cœurs qui ne profitent pas des signes d'Allah Azza wa Jal, des rappels de notre Seigneur. Alors que la personne qui fait preuve de piété, Allah lui donne la clairvoyance. Et les savants disent que cette clairvoyance se manifestera également par la connaissance religieuse. من العلوم وهذا يدخل فيه العلم بحيث يفتح الله على الإنسان يفتح الله على الإنسان من العلوم ما لا يفتحها لغيره. Allah t'accorde une connaissance qu'il n'accorde à personne d'autre. Ça veut dire quoi? Allah t'accorde une connaissance qu'il n'accorde à personne d'autre. Certains donnent comme interprétation ce qu'ils appellent une connaissance qui vient directement d'Allah, qui est connue de personne. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce qu'on ne peut pas connaître quelque chose qui n'existe pas déjà dans le Coran et la Sunna. Ça, c'est impossible. Parce que c'est une certaine vision des choses, qu'Allah t'inspire des choses que personne d'autre à part toi connaît. C'est-à-dire que tu auras une connaissance que même Abu Bakr, Omar, Uthman n'avait pas. Donc ça, bien sûr, on écarte immédiatement. Les savants disent que, il y a un autre verset, j'essaie de me rappeler, le verset ne me revient pas, que quand on fait preuve de crainte d'Allah, Allah t'enseigne, te donne le ilm, la compréhension. En fait, c'est qu'Allah te donne, c'est le terme qu'on a utilisé, la compréhension de la religion. La compréhension du ilm, la compréhension des versets du Coran, la compréhension des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous rappelez, on avait expliqué il y a quelques semaines qu'il y a des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait un petit hadith, un hadith de quelques mots. C'était une petite phrase, mais cette phrase-là, certaines personnes peuvent la comprendre d'une façon extraordinaire et d'autres peuvent se limiter aux mots. En fonction de la piété, une personne peut voir la lumière qu'il y a dans chaque parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même façon, une personne pieuse va voir la lumière qu'il y a dans chaque ayah, dans chaque verset. Et les savants expliquent le détail de façon très claire, quand on a dit qu'un verset du Coran, vous prenez deux personnes différentes, il y en a une qui va extraire trois règles, trois maslas. Trois maslas, ce n'est pas forcément jurisprudence, hein, mais trois règles à retenir, à mettre en pratique. Et l'autre va en retenir 10. Il y en a qui va en retenir 20. C'est en fonction, ce n'est pas en fonction de l'intelligence, ce n'est pas une question d'intelligence. C'est la taqwa, la piété. Quand quelqu'un a dans son cœur l'amour et la crainte d'Allah, Allah lui permet de se connecter à son livre, Kalamullah. Kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une communion avec les textes prophétiques, avec les paroles d'Allah azza wa jal, qu'Allah lui accorde une compréhension. Uloum al-istikhraj, al-istinbat, la compréhension des textes. Vous connaissez l'histoire de, enfin pas l'histoire, mais l'anecdote concernant Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, celui qui a commenté Sahih Bukhari, concernant l'enfant. On a déjà expliqué ça il y a quelque temps. Le petit garçon à Madina, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Madina, qui avait un oiseau. Qui connaît l'histoire? Ya Aba Umayr, mada fa'al al-Nughayr. Il avait un oiseau, et l'oiseau est mort. Et le prophète alayhi salat wa sallam, parti le voir, il l'a appelé, O Aba Umayr, mada fa'al al-Nughayr, qu'est-ce qui est arrivé à al-Nughayr, en parlant de l'oiseau? Bas. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette parole? Si je vous dis, ben dites-moi, tirez le maximum d'enseignements. On va en trouver 3, 4, 5. L'affection que le prophète alayhi salat wa salam avait pour les enfants, la rahma qu'il avait pour les plus petits, il savait les encourager. La simplicité du prophète alayhi salat wa salam, ce n'était pas une personne qui estimait qu'il n'avait à parler qu'aux rois, aux moulouks, aux empereurs. Il était d'une grande simplicité, une grande accessibilité. D'accord, le fait d'encourager un enfant, le fait qu'un enfant a le droit d'avoir un animal de compagnie, que être à Madina n'empêche pas d'avoir un oiseau. Il était dit de chasser, mais là l'oiseau était vivant. On peut en extraire 10 ou 15. Ibn Hajar, dans certaines sources, il dit Ibn Hajar al-Asqalani, en a extrait au moins 100 maslas. Dans certaines sources, j'avais lu 40, puis quelqu'un m'a repris, il m'a dit que non, il n'y a pas 40. Dans telle version, il dit qu'Ibn Hajar en a trouvé à peu près 100 règles extraites de cette anecdote. Ça, c'est ulama, la compréhension. Pourtant, c'est le même texte. Ce n'est pas qu'il a eu un morceau du hadith qu'un homme n'a eu. Non, la même chose, mais l'accès au texte, la possibilité de comprendre. Parce que chaque ya yuhalladina amanu et chaque parole du prophète sallam est porteur d'une lumière et d'un sens et d'un message pour la umma. Maintenant, en fonction de notre piété, on comprendra le message. Imam al-Shafi'i, rahimahullah, avait posé la question à... À qui avait posé la question? Waqi', rahimahullah. Il avait dit à Waqi', quelle est la solution pour une personne qui a du mal à mémoriser? Hifz. Le pouvoir de mémorisation est faible. Et là, Waqi', non, Imam al-Shafi'i, il va citer la réponse de Waqi' à travers des vers qui sont magnifiques. Shakawtu ila Waqi' su ihfzi fa arshadani ila tark al ma'asi. Shakawtu ila Waqi', je me suis plaint à Waqi' su ihfzi, de la faiblesse de ma mémoire. Fa arshadani, et il m'a suggéré ila tark al ma'asi, d'arrêter tout ce qui est mauvais, tout ce qui s'appelle péché. Wa qala i'lam bi anna al-'ilma Nourun. Et Waqi'a m'a donc dit, sache que la connaissance religieuse, c'est une lumière. Wa nurullah la yu'tahu 'asi. Et la lumière d'Allah n'est pas accordée à un pécheur. Magnifique réponse de Waqi'a. Il avait donné ce conseil à Imam Shafi'i. Si quelqu'un veut avoir une bonne mémoire pour mémoriser le Coran, pour mémoriser les hadiths, pour bien comprendre la religion, il faut arrêter immédiatement avec les péchés. Parce que le ilm, c'est une lumière, ça qu'Allah accorde à qui il veut, mais Allah ne l'accorde pas à un pécheur. Donc celui qui fait preuve de piété, il aura l'accès au ilm. Et quel plus grand honneur, quel plus grand bonheur que d'avoir l'accès à la connaissance religieuse, la compréhension des textes, que quand on entend l'imam lire dans la salat, on comprend, on sent cette lumière qui pénètre nos cœurs et on sent l'iman augmenter. Zadatuhum imana. Sahaba, quand ils entendaient les paroles d'Allah, zadatuhum imana, leur foi augmenter, wa ala rabbihim yatawakkalun, et leur confiance en Allah également augmenter. Ça, c'est l'effet des versets sur leur cœur. Mais nous, il n'y a pas cet effet. S'il y a la piété, chaque verset, c'est comme un électrochoc pour le cœur. Chaque parole du prophète alayhi salatu wassalam, c'est comme, on appelle ça les appareils qu'on branche, là, quand les gens ils font un malaise cardiaque, ça réveille les cœurs immédiatement. Quand le iman commence à s'endormir, on entend un hadith nabawi, ça réveille les cœurs et ça nous rappelle. Ça enlève la rafla, l'insouciance qui a tendance à s'installer. L'insouciance, encore une fois, on répète une des définitions, c'est quand tu oublies. Pas que tu oublies tes clés, quand tu oublies le code de ta carte bancaire, non, ça c'est pas un problème ça. Enfin c'est un problème, mais c'est autre chose. Le vrai problème, le vrai rafla, c'est quand tu oublies la notion de temps, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est quand tu oublies les bienfaits qu'Allah t'a accordés, tu ne les vois plus. Tu les as, hein? Tu jouis tes bienfaits, mais tu es toujours en train de râler, en train de grogner, en train d'être jaloux des autres. Alors que subhanallah, tu marches sur tes pieds, tu vois, tu entends, tu parles, tu es autonome, tu n'es pas sur une chaise roulante, tu n'as pas d'handicap. Tu es, mashallah, en pleine possession de tes facultés physiques, facultés mentales, psychologiques, stabilité, tu as une famille, tu as des parents, tu as un toit, tu ne dors pas de la rue. Tout ça, ce sont des ni'am. Tout ça, ce sont des bienfaits. La rafla, c'est quand on finit par oublier tout ça. Quand on oublie le temps, que le temps est compté. Quand on oublie qu'on a rendez-vous avec l'ange de la mort. Quand on oublie qu'on a des anges qui inscrivent nos actions bonnes comme mauvaises. Quand on oublie qu'on a un rendez-vous avec Allah. Aham shay. Ça, c'est rafla et qu'Allah nous protège de l'insouciance. Donc, la ja'allakum furqana. On va aller un peu plus vite. Puis, les savants disent également que ce fahm, cette compréhension, ça peut se manifester également d'une autre façon. Il y a quelque chose qu'on appelle al-firasa. Je ne sais pas comment traduire al-firasa en arabe, en français. Al-firasa, c'est comme une certaine intelligence, comme un pouvoir de déduction. Pas de séduction, bien sûr. Un pouvoir de déduction. Où, c'est-à-dire qu'on peut lire un petit peu dans le regard des gens. Enfin, on ne parle pas de miracle, là encore. Hein, mais que quand quelqu'un, mashallah, il vit dans l'obéissance d'Allah, c'est quelqu'un qui ne désobéit jamais à Allah et qui est donc guidé par Allah. Quand il parle avec une personne, il est capable de connaître si c'est quelqu'un de véridique ou quelqu'un de mensonger. C'est qui dit mensonge? C'est quelqu'un qui est sincère ou quelqu'un qui est hypocrite? C'est quelqu'un qui lui veut du bien ou quelqu'un qui lui veut du mal? Et ça fait partie de furqana, que tu ne tombes pas dans les pièges. Allah te protège contre ce qui est mauvais. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils vous écoutent. Ils parlent avec une personne. Ils ont cette faculté tout de suite de cerner la personnalité. Sans porter un jugement, c'est pas dire que lui c'est un munafiq. Non, sa personne a le droit de dire, mais il y a un feeling. Il sent, il connaît qui c'est qui est, mashallah, des gens bien, ou qui c'est qui n'est pas, des gens qui peuvent être nuisibles. Également, et là on pousse un peu plus, là on va encore un peu plus loin, quand ce furqana atteint un certain degré, là on a Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui est sur le mimbar, alors qu'il est calife, et qu'il y a des musulmans qui sont en lutte contre une autre armée en Irak et qu'ils sont en difficulté et qu'ils s'apprêtent, à se faire surprendre par d'ailleurs une montagne, une colline, ce qui est synonyme de mort. Dans de tels affrontements, être surpris par l'ennemi, c'était fini. Et Umar ibn al-Khattab, il reçoit comme une illumination de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah lui fait voir cette situation en tant qu'amir al-mu'minim, en tant que certainement l'homme le plus pieux de cette umma à cette époque. Et là, il va accomplir comme un miracle. C'est un karama. Karama, c'est des choses qui sont possibles. Karama, c'est un miracle accompli par un homme pieux. Et là, il va prévenir l'armée qui est en Irak. Il est où sur le mimbar de Masjid Nabawi? Et il va dire, attention, la montagne, derrière la montagne, l'armée arrive. Et les sahabas qui sont là, ils ne comprennent pas pourquoi En plein khutba, il dit quelque chose comme ça. C'était une inspiration qui lui est venue d'Allah Azza wa Jal, qu'il a été capable de voir et de transmettre. Comment, on ne sait pas. Ça, c'est vraiment des hauts degrés. Ça, c'est carrément des awliya. On n'aime pas exagérer non plus dans les miracles. Il y en a qui aiment trop ça. Trop les miracles, il a fait telle chose. Mais ce sont là des choses qui sont réelles, mais qui sont basées sur la taqwa, la piété. Basées sur la piété, basées sur l'ilm, sur l'authenticité. On n'accomplit pas des miracles quand on est dans des innovations. On accomplit, on peut arriver. Ce n'est pas un objectif non plus. Ce n'est pas un objectif que de marcher sur l'eau, que de voir des choses. Abadan. Mais ça, c'est quand une personne atteint un certain degré. C'est comme si que Allah guide tes pas et que tu es dans ce dunya, mais tu es vraiment quelqu'un qui a eu la nusrat d'Allah en permanence. Tu as une vision que les gens n'ont pas tout ça. Ce sont les thamarat de taqwa et il doit y avoir plus. Et Allah seul le sait. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. On va clôturer rapidement ce verset de sourate Al-Anfal. Et Allah Azza wa Jal va donc pardonner tes péchés, vous effacera vos méfaits, wa yaghfir lakum, les deux on va faire ensemble, et vous pardonnera. Alors, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, de quelle façon Allah pardonne les péchés? Allah te donne tawfiq d'accomplir les bonnes œuvres. Le tawba, oui, ça c'est dans un instant, Allah te donne la possibilité d'accomplir des bonnes œuvres, tout en sachant que, comme Prophète a dit, as-salawatul khams, les cinq prières, wal jum'atu ila al-jum'a, d'un vendredi jum'a à un autre jum'a. Wa ramadan ila ramadan, de ramadan à un autre. Kaffaratun lima baynahuma, entre ces périodes, si les actions qu'on a citées, les prières, cinq prières, les jum'a ou le ramadan ont été accomplis correctement, ben ça pardonne les péchés qui ont été accomplis de ce laps de temps. Subhanallah, ça c'est manifestation de la clémence d'Allah. Comment Allah nous envoie sa rahma d'un ramadan à l'autre. Si on accomplit bien nos jeûnes, les péchés d'une année, ils sont pardonnés par Allah Azza wa Jal. Mais attention, le hadith se termine par une condition. Kafaratul lima baynahuma majtunibatil kaba'ir. À condition que la personne n'accomplit pas de péché majeur. Tant qu'il ne fait pas de guna kabira, de grands péchés, ben là les péchés sont pardonnés. Si c'est tous les petits péchés, sont pardonnés. Là les savants disent, ça c'est une parenthèse, il ne faut pas non plus interpréter les textes de façon idyllique. Bien, je fais le ramadan, tout ce que j'ai fait, j'ai emprunté 10 000 euros avec la banque, sur un emprunt sur 5 ans, je jeûne, Allahu Akbar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu alayka tawakkaltu. Khalas, le haram est parti, c'est bon. J'ai fait zina cette année avec 28 femmes. Allahumma inni asumu ghadan lak faghfir li, Allahu Akbar, Allah. Et voilà, ça se passe pas comme ça, ikhwani fillah. Majtunibatil kaba'ir. On n'accomplit pas de péché majeur, et là, tout ce qu'il y a pu y avoir, et wallahi, le plus grave, ikhwani fillah, enfin, je n'ai pas le droit de dire que le plus grave, c'est les petits péchés, mais ce qui est préoccupant, ce sont les petits péchés, parce que ce sont ceux qu'on oublie. Si quelqu'un commet une grosse bêtise, avec le peu de iman, il va s'en souvenir, il va essayer de trouver une solution pour obtenir le pardon d'Allah. Mais les petits péchés, les ribas, tout ce qu'on fait au quotidien, il y a des fois où on cumule, et on ne pense même pas que c'était un péché. Donc, hada. Comment est-ce qu'Allah donc pardonne les péchés? Il t'accepte pour faire de bonnes actions. Donc, tu fais preuve de piété, taqwa, Allah te donne la compréhension de la religion. Tu fais preuve de piété, Allah t'accepte pour accomplir de bonnes œuvres. Ça c'est tawfiq, on appelle tawfiq min Allah. Allah t'accepte pour faire de bonnes œuvres et du coup, les péchés, les bonnes actions effacent les péchés. Dahil Ibrahim a dit, وَاتْبِعِ السَّيَّةَ الْحَسَنَةَ الْمُحُهَا. Quand accomplis la bonne action immédiatement après le péché, avec espoir que la bonne action, en plus qu'on demande pardon, on a espoir que la bonne action effacera le péché. وَهَذَا يَعْنِي. En conclusion, dit que cela veut dire que lorsque l'homme, le mu'min, fait preuve de crainte d'Allah, سَهَلَ اللَّهُ لَهُ الْأَعْمَالُ صَالِحَةً. Allah lui donne la facilité d'accomplir les bonnes œuvres. Allati yukaffiru Allahu biha anhu as-sayyi'at. Allah lui donne la possibilité d'accomplir les bonnes actions par lesquelles Allah va pardonner ses péchés. Et dernier point, wa yaghfir lakum. Le premier c'était Allah effacera vos méfaits. Comment? Il te donne la possibilité d'accomplir les bonnes actions et tes péchés sont effacés. Et vous pardonnera. Ça c'est une autre notion. Wa yaghfir lakum bi ayn. يُيَسِّرَكُمْ لِلْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ وَهَذَا مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُيَسِّرَهُ لِلْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ. Ça fait partie des bienfaits qu'Allah accorde à son serviteur de lui donner la possibilité de demander pardon. Quand Allah met dans ton cœur le sentiment de culpabilité après avoir accompli un péché et que cela te pousse à aller demander pardon, ya Allah, Ça, c'est une faveur de la part d'Allah. Parce que le contraire, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la rafla. Tu fais un péché, tu ne t'en préoccupes pas. Et quand est-ce que tu vas te rappeler de ce péché ? Nassalullah al-afiyah, c'est quand il te sera présenté le jour de Qiyama, de te livrer d'action, et qu'Allah te demandera pourquoi est-ce que tu as accompli tel péché, à tel moment, telle année, tel instant, telle minute. Et que l'homme ne trouvera aucune réponse à donner, qu'Allah le protège. Alors que quand Allah te donne la possibilité de demander istighfar, c'est là une faveur de la part d'Allah Azza wa Jal. Et en conclusion encore, il dit, « Wa minal bala », il dit, ça c'est un bala, ça c'est un malheur lil abdi, « an yadhunna anna ma kana alayhi min adh-dhunub laysa bi dhanbin », que celui, que la personne accomplit les péchés, il considère que c'est pas grave. « Fa yusirru alayhi », il persiste, il va devenir... Comment on appelle péchant Dieu ici? Fasiq. Le fasiq, c'est celui qui se plaît dans le péché, qui ne demande pas pardon et qui le fait tout le temps, régulièrement. Wal-iyadu billah. Après, il y a un autre verset, mais on va s'arrêter à là. Donc, ikhwan fillah, ce qu'on doit retenir, c'est que si on fait un effort sur nous-mêmes, contrôler nos regards, contrôler nos paroles, contrôler, subhanallah, tout ce qu'on peut contrôler pour ne pas aller dans le péché, et accomplir le maximum de bonnes actions, ce qui est obligatoire, mais également ce qui n'est pas obligatoire, comme le jeûne, le qiyam al-layl, le shurur le matin, faire beaucoup istighfar, le dhikr, le lecture du Coran, on fait preuve de piété à chaque instant, on pense à Allah Azza wa Jal, Allah nous donne la compréhension saine de la religion, Allah guide nos pas, Allah nous donne la possibilité de faire des bonnes œuvres, par lesquelles nos péchés seront enlevés, et Allah nous accorde son pardon, parce que n'oublions jamais que Allah il est dhul fadlil azim, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. La clémence d'Allah, elle est illimitée. À nous de demander à Allah Azza wa Jal et de faire les efforts, qu'Allah nous accorde cette qualité. Inch'Allah, lundi prochain, on va commencer les premiers hadiths, Inch'Allah, concernant Babu Taqwa, qu'Allah nous accorde cette qualité. Wa ma tawfiq illa billah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifoun. Wa salamun ala al mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Zakum.